Chapitre 3. Auguste Comte est aujourd'hui mis à son rang à côté de Descartes et de Leibniz. La partie de sa philosophie qui traite des rapports des sciences entre elles et de leur subordination, celle encore où il dégage de l'amas des faits historiques une constitution positive de la sociologie, font désormais partie des plus précieuses richesses de la pensée humaine. Au contraire, le plan tracé par ce grand homme à la fin de sa vie, en vue d'une organisation nouvelle de la société, n'a trouvé aucune faveur en dehors de l'Église positiviste. C'est la partie religieuse de l'œuvre. Auguste Comte l'a conçue sous l'influence d'un amour mystique et chaste. Celle qui l'inspira, Clotilde de Vaux, mourut un an après sa première rencontre avec le philosophe, qui voua à la mémoire de cette jeune femme un culte continué par les disciples fidèles. La religion d'Auguste Comte fut inspirée par l'amour. Pourtant, elle est triste et tyrannique. Tous les actes de la vie, de la pensée, y sont étroitement réglés. Elle donne à l'existence une figure géométrique. Toute curiosité de l'esprit est sévèrement réprimée. Elle ne souffre que des connaissances utiles et subordonne entièrement l'intelligence au sentiment. Chose digne de remarque. Par cela même que cette doctrine est fondée sur la science, elle suppose la science définitivement constituée. Et loin d'encourager les recherches ultérieures, elle les déconseille et blâme même celles qui n'ont pas pour objet le bien des hommes. Cela seul n'empêcherait pas d'aller frapper en habit blanc de néophyte aux portes du temple de la rue Monsieur le Prince. Bannir le caprice et la curiosité, mais que cela est cruel. Ce dont je me plains, ce n'est pas que les positivistes veuillent nous interdire toute recherche sur l'essence, l'origine et la fin des choses. Je suis bien résigné à ne connaître jamais la cause des causes et la fin des fins. Il y a beau temps que je lis les traités de métaphysique comme des romans plus amusants que les autres, non plus véritables. Mais ce qui rend le positivisme amer et désolant, c'est la sévérité avec laquelle il interdit les sciences multitiles qui sont les plus aimables. Vivre sans elles, serait-ce encore vivre? Il ne nous laisse pas jouer en liberté avec les phénomènes et nous enivrer des vaines apparences. Il condamne la folie délicieuse d'explorer les profondeurs du ciel. Auguste Comte, qui professa 20 ans l'astronomie, voulait borner l'étude de cette science aux planètes visibles de notre système, les seuls corps, disait-il, qui puissent avoir une influence appréciable sur le grand fétiche. C'est la Terre qu'il appelait ainsi. Mais le grand fétiche ne serait plus habitable à certains esprits si la vie était réglée heure par heure et si on y pouvait faire des choses inutiles, comme par exemple rêver aux étoiles doubles. « Il faut que j'agisse puisque je vis, » dit l'homonculus sorti de l'alambic du docteur Wagner. Et dans le fait, vivre, c'est agir. Malheureusement, l'esprit spéculatif rend l'homme impropre à l'action. L'empire n'est pas à ceux qui veulent tout comprendre. C'est une infirmité que de voir au-delà du but prochain. Il n'y a pas que les chevaux et les mulets à qui il faille des œillères pour marcher sans écart. Les philosophes s'arrêtent en route et changent la course en promenade. L'histoire du petit chaperon rouge est une grande leçon aux hommes d'État qui portent le petit pot de beurre et ne doivent pas savoir s'il est des noisettes dans les sentiers du bois. Plus je songe à la vie humaine, plus je crois qu'il faut lui donner pour témoin et pour juge l'ironie et la pitié, comme les Égyptiens appelaient sur leurs morts la déesse Isis et la déesse Nephthys. L'ironie et la pitié sont deux bonnes conseillères. L'une en souriant nous rend la vie aimable, l'autre qui pleure nous la rend sacrée. L'ironie que j'invoque n'est point cruelle, elle ne raille ni l'amour ni la beauté. Elle est douce et bienveillante, son rire calme la colère, et c'est elle qui nous enseigne à nous moquer des méchants et des sots, que nous pouvions sans elle avoir la faiblesse de haïr. Cet homme aura toujours la foule pour lui, il est sûr de lui comme de l'univers. C'est ce qui plaît à la foule, elle demande des affirmations et non des preuves. Les preuves la troublent et l'embarrassent. Elle est simple et ne comprend que la simplicité. Il ne faut lui dire ni comment ni de quelle manière, mais seulement oui ou non. Les morts se prêtent aux réconciliations avec une extrême facilité. C'est un bon instinct que de confondre dans la gloire et dans l'amour les ouvriers qui, bien qu'ennemis, travaillèrent en commun à quelque grande œuvre morale ou sociale. La légende opère ces réunions posthumes qui contentent tout un peuple. Elle a des ressources merveilleuses pour mettre Pierre et Paul et tout le monde d'accord. Mais la légende de la Révolution a bien de la peine à se faire. Le goût des livres est vraiment un goût louable. On a raillé les bibliophiles, et peut-être après tout prêtent-ils à la raillerie. C'est le cas de tous les amoureux. Mais il faudrait plutôt les envier, puisqu'ils ont orné leur vie d'une longue et paisible volupté. On croit les confondre en disant qu'ils ne lisent point leurs livres. Mais l'un d'eux a répondu sans embarras, « Et vous, mangez-vous dans votre vieille faïence ? » Que peut-on faire de plus honnête que de mettre des livres dans une armoire ? Cela rappelle beaucoup à la vérité la tâche que se donnent les enfants quand ils font des tas de sable au bord de la mer. Ils travaillent en vain et tout ce qu'ils élèvent sera bientôt renversé. Sans doute, il en est ainsi des collections de livres et de tableaux. Mais il n'en faut accuser que les vicissitudes de l'existence et la brièveté de la vie. La mer emporte des tas de sable. Le commissaire-priseur disperse les collections. Et pourtant, on n'a rien de mieux à faire que des tas de sable à 10 ans, mais des collections à 60. Rien ne restera de tout ce que nous élevons, et l'amour des bibelots n'est pas plus vain que tous les autres amours. Pour peu qu'on ait pratiqué les savants, on s'aperçoit qu'ils sont les moins curieux des hommes. Étant, il y a quelques années, dans une grande ville d'Europe, que je ne nommerai pas, je visitais les galeries d'histoire naturelle en compagnie d'un des conservateurs qui me décrivait les zoolithes avec une extrême complaisance. Il m'instruisit beaucoup jusqu'au terrain pliocène. Mais lorsque nous nous trouvâmes devant les premiers vestiges de l'homme, il détourna la tête et répondit à mes questions que ce n'était point sa vitrine. Je sentis mon indiscrétion. Il ne faut jamais demander à un savant les secrets de l'univers qui ne sont point dans sa vitrine. Cela ne l'intéresse point. Le temps, dans sa fuite, blesse ou tue, nos sentiments les plus ardents et les plus tendres. Il affaiblit l'admiration en lui ôtant ses aliments naturels, la surprise et l'étonnement. Il anéantit l'amour et ses belles folies. Il ébranle la foi et l'espérance. Il défleurit, il effeuille tout. Il effeuille toutes les innocences. Ou moins, qu'il nous laisse la pitié, afin que nous ne soyons pas enfermés dans la vieillesse comme dans un sépulcre. C'est par la vieillesse, pitié, qu'on demeure vraiment homme. Ne nous changeons pas en pierre comme les grands impies des vieux mythes. Ayons pitié des faibles, parce qu'ils souffrent la persécution, et des heureux de ce monde, parce qu'il est écrit « Malheur à vous qui riez ». Prenons la bonne part, qui est de souffrir avec ceux qui souffrent, et disons des lèvres et du cœur aux malheureux, comme le chrétien Marie, « Fac me te cum plangere ». Ne craignons pas trop de prêter aux artistes d'autrefois un idéal qu'ils n'eurent jamais. On n'admire point sans quelque illusion, et comprendre un chef-d'œuvre, c'est en somme le créer en soi-même à nouveau. Les mêmes œuvres œuvrent diversement dans les âmes qui les contemplent. Chaque génération d'hommes cherche une émotion nouvelle devant les ouvrages des vieux maîtres. Le spectateur le mieux doué est celui qui trouve, au prix de quelques heureux contresens, l'émotion la plus pure et la plus forte. Aussi, l'humanité ne s'attache-t-elle guère, avec passion, qu'aux œuvres d'art ou de poésie dont quelques parties sont obscures et susceptibles d'interprétations diverses. On annonce, on attend, on voit déjà de grands changements dans la société. C'est l'éternelle erreur de l'esprit prophétique. L'instabilité, sans doute, est la condition première de la vie. Tout ce qui vit se modifie sans cesse, mais insensiblement et presque à notre insu. Tout progrès, oh, le meilleur comme le pire, est lent et régulier. Il n'y aura pas de grand changement. Il n'y en eut jamais, enfin j'entends de prompt ou de soudain. Toutes les transformations économiques s'opèrent avec la lenteur clémente des forces naturelles. Bonnes ou mauvaises, à notre sens, les choses sont toujours ce qu'il fallait qu'elles fussent. Notre état social est reflet des états qui l'ont précédé, comme il est la cause des états qui le suivront. Il tient des premiers comme les suivants tiendront de lui. Et cet enchaînement fixe pour longtemps la persistance d'un même type. Cet ordre assure la tranquillité de la vie. Il est vrai qu'il ne contente ni les esprits curieux de nouveautés, ni les cœurs altérés de charité. Mais c'est l'ordre universel, il faut s'y soumettre. Ayons le zèle du cœur et les illusions nécessaires. Travaillons à ce que nous croyons utile et bon, mais non point dans l'espoir d'un succès subit et merveilleux, non point au milieu des imaginations d'une apocalypse sociale. Toutes les apocalypses éblouissent et déçoivent. N'attendons point de miracle. Résignons-nous à préparer pour notre imperceptible part l'avenir meilleur ou pire que nous ne verrons plus. Il faut dans la vie faire la part du hasard. Le hasard, en définitive, c'est Dieu. Les philosophies sont intéressantes seulement comme des monuments psychiques propres à éclairer le savant sur les divers états qu'a traversé l'esprit humain. Précieuses pour la connaissance de l'homme, elle ne saurait nous instruire en rien de ce qui n'est pas l'homme. Les systèmes sont comme ces minces fils de platine qu'on met dans des lunettes astronomiques pour en diviser le champ en parties égales. Ces fils sont utiles à l'observation exacte des astres, mais ils sont de l'homme et non du ciel. Il est beau qu'il y ait des fils de platine dans les lunettes, mais il ne faut pas oublier que c'est l'opticien qui les a mis. À 17 ans, je vis un jour Alfred de Vigny dans un cabinet de lecture de la rue de l'Arcade. Je n'oublierai jamais qu'il portait une espèce cravate de satin noir attachée au cou par un camé et sur laquelle se rabattait un col aux bords arrondis. Il tenait à la main une mince canne de jonc à pomme d'or. J'étais bien jeune et pourtant il ne me parut pas vieux. Son visage était paisible et doux. Ses cheveux décolorés, mais soyeux encore et légers, tombaient en boucles sur ses joues rondes. Il se tenait très droit, marchait à petits pas et parlait à voix basse. Après son départ, je feuilletais avec une émotion respectueuse le livre qu'il avait rapporté. C'était un tome de la collection Petitot, Les Mémoires de l'Anou, je crois. J'y trouvais un signet oublié, une étroite bande de papier sur laquelle de sa grande écriture allongée et pointue, qui rappelait celle de Madame de Sévigné, le poète avait tracé au crayon un seul mot, un nom, Bellérophon. Héros fabuleux ou navire historique? Que signifiait ce nom? Vigny songeait-il en écrivant à Napoléon, trouvant les bornes des grandeurs de chair, ou bien se disait-il le cavalier mélancolique porté par Pégase n'a point, quoi qu'en aient dit les Grecs, tué le monstre terrible et charmant que la sueur au front, la gorge brûlante et les pieds en sang, nous poursuivons éperdument. La chimère. La tristesse philosophique s'est plus d'une fois exprimée avec une morne magnificence. Comme les croyants parvenus à un haut degré de beauté morale goûtent les joies de renoncement, le savant, persuadé que tout autour de nous n'est qu'apparence et duperie, s'enivre de cette mélancolie philosophique et s'oublie dans les délices d'un calme désespoir. Douleur profonde et belle, que ceux qui l'ont goûtée n'échangeraient pas contre les gaietés frivoles et les vaines espérances du vulgaire. Et les contradicteurs, qui malgré la beauté esthétique de ses pensées, les trouveraient funestes à l'homme et aux nations, suspendront peut-être l'anathème quand on leur montrera la doctrine de l'illusion universelle et de l'écoulement des choses, unissant l'âge d'or de la philosophie grecque avec Xénophane et se perpétuant à travers l'humanité polie dans les intelligences les plus hautes, les plus sereines, les plus douces, un Démocrite, un Épicure, un Gassendi. Je sais une petite fille de 9 ans plus sage que les sages. Elle me disait tout à l'heure « On voit dans les livres ce qu'on ne peut pas voir en réalité parce que c'est trop loin ou parce que c'est passé, mais ce qu'on voit dans les livres, on le voit mal et tristement. Et les petits-enfants ne doivent pas lire des livres, il y a tant de choses bonnes à voir mais qu'ils n'ont pas vues. Les lacs, les montagnes, les rivières, les villes et les campagnes, la mer et les bateaux, le ciel et les étoiles. Je suis bien de son avis. Nous avons une heure à vivre, pourquoi nous charger de tant de choses? Pourquoi tant apprendre puisque nous savons que nous ne saurons jamais rien? Nous vivons trop dans les livres et pas assez dans la nature, et nous ressemblons à ce niais de Pline le Jeune, qui étudiait un orateur grec pendant que sous ses yeux, le Vésuve engloutissait cinq villes sous la cendre. Y a-t-il une histoire impartiale? Et qu'est-ce que l'histoire? La représentation écrite des événements passés. Mais qu'est-ce qu'un événement? Est-ce un fait quelconque? Non pas, c'est un fait notable. Or, comment l'historien juge-t-il qu'un fait est notable ou non? Il en juge arbitrairement, selon son goût et son caractère, à son idée, enfin en artiste. Car les faits ne se divisent pas, de leur propre nature, en faits historiques et en faits non historiques. Un fait est quelque chose d'infiniment complexe. L'historien présentera-t-il les faits dans leur complexité? Cela est impossible. Il les représentera, dénués de presque toutes les particularités qui les constituent, par conséquent tronqués, mutilés, différents de ce qu'ils furent. Quant au rapport des faits entre eux, n'en parlons pas. Si un fait dit historique est amené, ce qui est possible, ce qui est probable, par un ou plusieurs faits non historiques et par cela même inconnus, comment l'historien pourra-t-il marquer la relation de ces faits et leur enchaînement? Et je suppose, dans tout ce que je dis là, que l'historien a sous les yeux les témoignages certains, tandis qu'en réalité on le trompe, et qu'il n'accorde sa confiance à tel ou tel témoin que par des raisons de sentiment. L'histoire n'est pas une science, c'est un art. On n'y réussit que par l'imagination. C'est beau, un beau crime, s'écria un jour Jean-Jacques Weiss dans un grand journal. Le mot fit scandale parmi les lecteurs ordinaires. Je sais un digne homme de magistrat, un bon vieillard, qui rendit le lendemain la feuille au porteur. C'était un abonné de plus de 30 années, et il était dans l'âge où l'on n'aime pas à changer ses habitudes. Mais il n'hésita pas à faire ce sacrifice à la morale professionnelle. C'est, je crois, l'affaire Fualdès qui avait inspiré à Jean-Jacques Weiss une si généreuse admiration. Je ne veux scandaliser personne. Je ne saurais, il faut une grâce audacieuse que je n'ai point. Pourtant, je confesse que le maître avait raison, et que c'est beau, un beau crime. Les causes célèbres ont sur chacun de nous un attrait irrésistible. Ce n'est pas drôle de dire que le sang répandu est pour moitié dans la poésie de l'humanité. Macbeth et Chopard, dit l'aimable, sont les rois de la scène. Le goût des légendes scélérates est inné dans l'homme. Interrogez les petits enfants. Ils vous diront tous que si Barbe Bleue n'avait pas tué ses femmes, son histoire serait moins jolie. En face d'une ténébreuse affaire d'assassinat, l'esprit ressent une curiosité étonnée. Il s'étonne parce que le crime est de soi-même étrange, mystérieux et monstrueux. Et il s'intéresse parce qu'il retrouve dans tous les crimes ce vieux fond de faim et d'amour sur lequel, bons ou mauvais, nous vivons tous. Le criminel semble venu de très loin. Il nous rapporte une image épouvantable de l'humanité des bois et des cavernes. Le génie des races primitives revit en lui. Il garde des instincts qu'on croyait perdus. Il a des ruses que notre sagesse ignore. Il est poussé par des appétits qui sommeillent en nous autres. Il est encore une bête et déjà un homme, De là, l'admiration indignée qu'il nous inspire. Le spectacle du crime est à la fois dramatique et philosophique. Il est pittoresque aussi. Il séduit par des groupements bizarres, des ombres farouches, entrevues sur les murs, quand tout dort, des haillons tragiques, des expressions de visage dont le secret irrite. Rustique et rampant sur la terre nourricière qu'il abreuve depuis tant de siècles, le crime s'associe aux noires magies de la nuit, au silence amical de la lune, aux terreurs éparses dans la nature, aux mélancolies des champs et des rivières. Faubourien et caché dans la foule, il prend les nerfs par une odeur de bouge et d'alcool, un goût de pourriture et des accents inouïs d'infamie. Dans le monde, enfin je veux dire dans la société bourgeoise où il est rare, il s'habille comme nous, il parle comme nous. Et c'est peut-être sous cette figure équivoque et vulgaire qu'il occupe le plus fortement les imaginations. Le crime en habit noir est celui que le peuple préfère. Le charme qui touche le plus les âmes est le charme du mystère. Il n'y a pas de beauté sans voile, et ce que nous préférons, c'est encore l'inconnu. L'existence serait intolérable si on ne rêvait jamais. Ce que la vie est de meilleur, c'est l'idée qu'elle nous donne de je ne sais quoi qui n'est point en elle. Le réel nous sert à fabriquer tant bien que mal un peu d'idéal. C'est peut-être sa plus grande utilité. Cela est un signe du temps, dit-on à chaque instant. Mais il est très difficile de découvrir les vrais signes du temps. Il faut une connaissance du présent ainsi que du passé et une philosophie générale que nous n'avons ni les uns ni les autres. Il m'est arrivé plusieurs fois de saisir certains petits faits qui se passaient sous mes yeux et de leur trouver une physionomie originale dans laquelle je me plaisais à discerner l'esprit de cette époque. « Oh, ceci, me disais-je, devait se produire aujourd'hui et ne pouvait être autrefois. C'est un signe du temps. » Or, j'ai retrouvé 9 fois sur 10 le même fait avec des circonstances analogues dans de vieux mémoires ou dans de vieilles histoires. Il y a en nous un fond d'humanité qui change moins qu'on ne croit. Nous différons très peu, en somme, de nos grands-pères. Pour que nos goûts et nos sentiments se transforment, il est nécessaire que les organes qui les produisent se transforment eux-mêmes. C'est l'ouvrage des siècles. Il faut des centaines et des milliers d'années pour altérer sensiblement quelques-uns de nos caractères. Nous n'enfermons plus notre croyance dans les vieux dogmes. Pour nous, le Verbe ne s'est pas révélé seulement sur la sainte montagne dont parle l'Écriture. Le ciel des théologiens nous apparaît désormais peuplé de 20 fantômes. Nous savons que la vie est brève, et pour la prolonger, nous y mettons le souvenir des temps qui ne sont plus. Nous n'espérons plus en l'immortalité de la personne humaine, et pour nous consoler de cette croyance morte, nous n'avons que le rêve d'une autre immortalité, insaisissable celle-là, éparse, qu'on ne peut goûter que par avance et qui d'ailleurs n'est promise qu'à bien peu d'entre nous, l'immortalité des âmes dans la mémoire des hommes. Nous n'avons rien à faire en ce monde qu'à nous résigner. Mais les nobles créatures savent donner à la résignation le beau nom de contentement. Les grandes âmes se résignent avec une sainte joie. Dans l'amertume du doute, au milieu du mal universel, sous le ciel vide, elles savent garder intactes les antiques vertus des fidèles. Elles croient, elles veulent croire. La charité du genre humain les échauffe. C'est peu encore. Elle conserve pieusement cette vertu que la théologie chrétienne mettait dans sa sagesse au-dessus de toutes les autres parce qu'elle les suppose ou les remplace, l'espérance. Espérons, non point en l'humanité qui, malgré d'augustes efforts, n'a pas détruit le mal en ce monde, mais espérons dans ces êtres inconcevables qui sortiront un jour de l'homme comme l'homme est sorti de la brute. Saluons ces génies futurs, espérons en cette universelle angoisse dont le transformisme est la loi matérielle. Cette angoisse féconde, nous la sentons croître en nous. Elle nous fait marcher vers un but inévitable et divin. Les vieillards tiennent beaucoup trop à leurs idées. C'est pourquoi les naturels des îles Fidji tuent leurs parents quand ils sont vieux. Ils facilitent ainsi l'évolution, tandis que nous en retardons la marche en faisant des académies. L'ennui des poètes est un ennui doré, ne les plaignez pas trop. Ceux qui chantent savent charmer leur désespoir. Il n'est telle magie que la magie des mots. Mais les poètes se consolent comme les enfants avec des images. En amour, il faut aux hommes des formes et des couleurs. Ils veulent des images. Les femmes ne veulent que des sensations. Elles aiment mieux que nous, elles sont aveugles. Et si vous pensez à la lampe de Psyché, à la goutte d'huile, je vous dirai que Psyché n'est pas la femme, Psyché est l'âme. Ce n'est pas la même chose. C'est même le contraire. Psyché était curieuse de voir, et les femmes ne sont curieuses que de sentir. Psyché cherchait l'inconnu. Quand les femmes cherchent, ce n'est pas l'inconnu qu'elles cherchent. Elles veulent retrouver, voir tout, retrouver leurs rêves ou leurs souvenirs, la sensation pure. Si elles avaient des yeux, comment parviendrait-on à s'expliquer leurs amours ? À Édouard, Rode, sur les couvents de femmes. Il est pénible de voir une jeune fille mourir volontairement au monde. Le couvent effraie tout ce qui n'y entre pas. Au milieu du XIVe siècle de l'ère chrétienne, une jeune romaine nommée Brésilia fit dans un monastère de tels jeunes qu'elle en mourut. Le peuple furieux suivit le cercueil en criant « Chassons, chassons de la ville cette détestable race des moines !» Mais pourquoi ne les lapide-t-on pas? Pourquoi ne les jette-t-on pas dans la rivière? Et lorsque, 1400 ans plus tard, Chateaubriand exalta par la bouche du père Aubry les filles qui ont sacrifié leur beauté au chef-d'œuvre de la pénitence et mutilé cette chair révoltée dont les plaisirs ne sont que des douleurs, l'abbé Morellet, qui était un vieux philosophe, entendit avec impatience ces louanges de la vie cénobitique et s'écria « Si ce n'est pas là du fanatisme, je demande à l'auteur de me donner sa définition. » Que nous enseignent ces interminables querelles, sinon que la vie religieuse fait peur à la nature et que cependant elle a des raisons d'être et de durer. Le peuple et les philosophes n'entrent pas toujours dans ces raisons. Elles sont profondes et touchent au plus grand mystère de la nature humaine. Le cloître a été pris d'assaut et renversé. Ses ruines désertes se sont repeuplées. Certaines âmes y vont par une pente naturelle, ce sont des âmes claustrales. Parce qu'elles sont inhumaines et pacifiques, elles quittent le monde et descendent avec joie dans le silence et la paix. Plusieurs sont nées lasses, elles n'ont point de curiosité. Elles se traînent inertes et sans désir. Ne sachant ni vivre ni mourir, elles embrassent la vie religieuse comme une moindre vie et comme une moindre mort. D'autres sont amenées au cloître par des raisons détournées. Elles ne prévoyaient pas le but. Innocentes, blessées, une déception précoce, un deuil secret du cœur, leur a gâté l'univers. Leur vie ne portera point de fruits, le froid en a séché la fleur. Elles ont eu trop tôt le sentiment du mal universel. Elles se cachent pour pleurer, elles veulent qu'on les oublie. Elles veulent oublier, ou plutôt, elles aiment leur douleur, et elles la mettent à l'abri des hommes et des choses. Il en est d'autres enfin qu'attirent au couvent le zèle du sacrifice, et qui veulent se donner tout entière dans un abandon plus grand encore que celui de l'amour. Celles-là, plus rares, sont les vraies épouses de Jésus-Christ. L'Église leur prodigue les doux noms de lys et de roses, de colombes et d'agneaux. Elle leur promet, par la bouche de la reine des vierges, la couronne d'étoiles et le trône de candeur. Mais prenons garde de renchérir sur les théologiens. Aux époques de foi, on ne s'échauffait guère sur les vertus mystiques des religieuses. Je ne parle pas du peuple à qui les nonnes ont toujours été suspectes et qui a fait sur elles des contes joyeux. Non, je parle du clergé séculier dont les jugements étaient fort mélangés. N'oublions pas que la poésie des cloîtres date de Chateaubriand et de Montalembert. Il faut aussi considérer que les communautés diffèrent tout à fait selon les temps et les pays et qu'on ne peut les réunir toutes dans un même jugement. Le couvent fut longtemps en Occident la ferme, l'école, l'hôpital et la bibliothèque. Il y eut des couvents pour conserver la science, d'autres pour conserver l'ignorance. Il y en eut pour le travail comme pour l'oisiveté. J'ai visité, il y a quelques années, la montagne sur laquelle Sainte-Odile, fille d'un duc d'Alsace, éleva au milieu du XIIe siècle un monastère dont la mémoire est restée dans l'âme du peuple alsacien. Cette fille forte chercha et trouva les moyens d'adoucir autour d'elle le grand mal de vivre dont souffraient alors les pauvres gens. Aidée par d'habiles collaboratrices et servie par des serfs nombreux, elle défricha, cultiva les terres, éleva des bestiaux, mit les récoltes à l'abri des pillards. Elle fut prévoyante pour les imprévoyants. Elle enseigna la sobriété aux buveurs de cervoise, la douceur aux violents, une bonne économie à tous. Est-il possible de découvrir une ressemblance entre ces vierges robustes et pures des temps barbares, ces royales métayères, et les abbesses qui, sous Louis XV, mettaient des mouches pour aller à l'office et parfumaient de poudre à la maréchale les lèvres des abbés qui leur baisaient les doigts. Et même alors, même en ce jour de scandale, quand la noblesse jetait dans les abbayes des cadettes réveillées et voltées, il y avait de bonnes âmes sous les grilles et des maisons conventuelles. J'ai surpris les secrets de l'une d'elles, qu'elle me pardonne. C'est l'an passé, chez Le Goubin, libraire sur le quai Malaquais. Je trouvais un vieux manuel de confession à l'usage des religieuses. Une inscription mise sur le titre, à main reposée, m'apprit qu'en 1779, ce livre appartenait à sœur Anne, religieuse soumise à la règle des feuillantines. Il était rédigé en français et avait ceci de remarquable que chaque péché était imprimé sur une petite fiche collée au feuillet par le bord seulement. Pendant l'examen de conscience, dans la chapelle, la pénitente n'avait besoin ni de plume ni de crayon pour noter ses fautes graves ou légères. Il lui suffisait de corner la petite bande portant mention d'un péché qu'elle avait commis. Et dans le confessionnal, aidée de son livre, qu'elle suivait de corne en corne, sœur Anne ne risquait pas d'oublier quelques manquements au commandement de Dieu ou à ceux de l'Église. Or, dans le moment que je trouvais ce petit livre chez mon ami Le Goubin, je vis que plusieurs coulpes y étaient marquées d'un pli unique. C'étaient les coulpes extraordinaires de sœur Anne. D'autres avaient été cornés bien des fois, et les angles du papier étaient tout usés. Alors c'étaient là les péchés mignons de sœur Anne. Comment en douter? Le livre n'avait pas servi depuis la dispersion des religieuses en 1790. Il était encore plein des pieuses images et des prières historiées que la bonne fille avait glissées entre les pages. Je connus de la sorte l'âme de sœur Anne. Je n'y trouvais que des péchés innocents, s'il en fut, et j'ai grand espoir que sœur Anne est assise aujourd'hui à la droite du Père. Jamais cœur plus pur n'a battu sous la robe blanche des feuillantines. Et je me figure cette sainte fille d'aspect candide, un peu grasse, se promenant à pas lents entre les carrés de choux du jardin conventuel et marquant sans trouble de son doigt blanc sur le livre ses péchés aussi réguliers que sa vie. Paroles vaines, distractions dans les assemblées, distractions aux offices, désobéissance légère et sensualité dans les repas. Ce dernier trait me touche jusqu'aux larmes. Sœur Anne mangeait avec sensualité des racines cuites à l'eau. Elle n'était point triste, elle ne doutait point, elle ne tenta jamais Dieu. Ces péchés-là n'ont point de corne dans le petit livre. Religieuse, elle avait le cœur monastique. Sa destinée était conforme à sa nature. Voilà le secret de la sagesse de sœur Anne. Je ne sais, mais je crois bien qu'il y a beaucoup de sœur Anne aujourd'hui dans les couvents de femmes. J'aurais plusieurs reproches à faire aux moines. J'aime mieux dire tout de suite que je ne les aime pas beaucoup. Quant aux religieuses, je crois qu'elles ont pour la plupart, comme sœur Anne, un cœur monastique dans lequel abondent les grâces de leur état. Et pourquoi, sans cela, seraient-elles entrées au couvent? Aujourd'hui, elles n'y sont plus, jetées par l'orgueil et l'avarice de leur famille. Elles prennent le voile parce qu'il leur convient de le prendre. Elles le quitteraient s'il leur plaisait de le quitter, et vous voyez qu'elles le gardent. Les dragons philosophes qu'on voit forçant les clôtures dans les vaudevilles que la Révolution avait vite fait d'invoquer la nature et de marier les nonnes. La nature est plus vaste que ne croient les dragons philosophes. Elle réunit le sensualisme et l'ascétisme dans son sein immense. Et quant au couvent, il faut bien que le monstre soit aimable puisqu'il est aimé et qu'il ne dévore plus que des victimes volontaires. Le couvent a ses charmes. La chapelle avec ses vases dorés, ses roses en panier, une sainte vierge peinte de couleurs naturelles et éclairée par une lumière pâle et mystérieuse comme le clair de lune, les chants et l'encens, et la voix du prêtre, voilà les premières séductions du cloître. Elle l'emporte quelquefois sur celle du monde. C'est que ces choses ont une âme, qu'elles contiennent toute la somme de poésie accessible à certaines natures. Sédentaire et faite pour une vie discrète, humble, cachée, la femme se trouve tout d'abord à son aise au couvent. L'atmosphère en est tiède, un peu lourde. Elle procure aux bonnes filles les délices d'une lente asphyxie. On y goûte à un demi-sommeil. On y perd la pensée, c'est un grand débarras. En échange, on y gagne la certitude. N'est-ce pas, au point de vue pratique, une excellente affaire? Je compte pour peu les titres d'épouse mystique de Jésus, de vase d'élection et de colombe immaculée. On a guère d'exaltation dans les communautés. Les vertus y vont leur petit train. Tout jusqu'au sentiment du divin y garde un prudent terre-à-terre. Pas d'envolée. Le spiritualisme, dans sa sagesse, s'y matérialise autant qu'il peut, et il le peut beaucoup plus qu'on le pense confinément. La grande affaire de la vie est si bien divisée en une suite de petites affaires que l'exactitude supplée à tout. rien ne rompt jamais la trame égale de l'existence. Le devoir y est très simple, la règle le trace. Il y a là de quoi satisfaire les âmes timides, douces et obéissantes. Une telle vie tue l'imagination et non pas la gaieté. Il est rare de rencontrer l'expression d'une tristesse profonde sur le visage d'une religieuse. À l'heure qu'il est, on chercherait vainement dans les couvents de France une Virginie de Leiva ou une Giulia Caracciolo, victime révoltée et respirant avec ivresse à travers les grilles du cloître les parfums de la nature et du monde. On n'y trouverait pas non plus, je crois, une Sainte Thérèse ou une Sainte Catherine de Sienne. L'âge héroïque des couvents est jamais passé. L'ardeur mystique s'éteint. Les causes qui gelaient tant d'hommes et de femmes dans les monastères n'existent plus. Autant de violence quand l'homme, mal assuré de goûter les fruits de son travail, se réveillait sans cesse aux cris de mort, aux lueurs de l'incendie. Quand la vie était un cauchemar, les plus douces âmes s'en allaient rêver du ciel dans des maisons qui s'élevaient comme de grands navires au-dessus des flots de la haine et du mal. Mais ces temps ne sont plus. Le monde est devenu à peu près supportable. On n'y reste plus volontiers. Mais ceux qui le trouvent encore trop rude et trop peu sûr sont libres après tout de s'en retirer. L'Assemblée constituante avait eu tort de le contester, et nous avons eu raison de l'admettre en principe. J'ai l'honneur de connaître la supérieure d'une communauté dont la maison mère est à Paris. C'est une femme de bien et qui m'inspire un sincère respect. Elle me contait, il y a peu de temps, les derniers moments d'une de ces religieuses que j'avais connue dans le monde rieuse et jolie et qui était allée s'éteindre de phtisie au couvent. Elle a fait une sainte mort, me dit la supérieure. Elle se levait de son lit tous les jours de sa longue maladie et deux sœurs converses la portaient à la chapelle. Elle y priait encore le matin de sa délivrance. Un cierge allumé devant l'image de Saint-Joseph s'égouttait sur le parquet. Elle donna l'ordre à une des sœurs converses de redresser ce cierge. Puis elle se renversa en arrière, poussa un grand cri et entra en agonie. On l'administra. Elle ne put témoigner que par le mouvement de ses yeux de la pitié avec laquelle elle recevait les sacrements des morts. Ce petit récit me fut fait avec une admirable simplicité. La mort est l'acte le plus important de la vie religieuse. Mais l'existence cénobitique y prépare si bien qu'il ne reste pas plus à faire en ce moment-là qu'en tout autre. On redresse un cierge qui s'égouttait et l'on meurt. Il n'en fallait pas plus pour compléter une sainteté minutieuse.